Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. 46 voix pour, 20 contre, c'est le vote qui a permis d'adopter en première lecture à l'Assemblée nationale il y a quelques jours la proposition de loi La République en marche sur le secret des affaires. Le texte sera devant le Sénat le 18 avril prochain. Il s'agit de transposer en droit français une directive européenne qui fait débat depuis des années, car des organisations non gouvernementales, des lanceurs d'alerte et les journalistes, notamment les journalistes d'investigation, craignent que le dispositif mette à mal le droit à l'information pour tout ce qui concerne les entreprises, c'est-à-dire à peu près tous les domaines de la vie humaine. Faut-il choisir entre le secret des affaires et la liberté d'informer ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Laurent Mauduit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation, écrivain et cofondateur de Mediapart et auteur de « Main basse sur l'information » aux éditions Don Quichotte. Et Raphaël Gauvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche de Saône-et-Loire et co-rapporteur de la proposition de loi sur le secret des affaires. Raphaël Gauvin, on va commencer avec vous. Le but de cette loi, c'est quoi ?
Le but de cette loi, c'est de donner un cadre juridique au secret des affaires. Et donc, par rapport à votre débat, c'est-à-dire faut-il choisir entre secret des affaires et la liberté d'informer, c'est il faut pas choisir. Il faut protéger le secret des affaires et donner un cadre juridique et protéger les journalistes.
Alors, on va enchaîner, mais le secret des affaires, il est défini comment dans la loi ?
Alors, le secret des affaires, c'est une définition qui est donnée par la directive européenne. Donc, c'est les informations confidentielles de l'entreprise qui sont protégées et qui permettent notamment de lutter contre l'espionnage industriel, etc. C'est un débat qui a lieu depuis très très longtemps en France. Et puis, dans le même temps, si un journaliste, enfin ça va être l'objet de notre débat, mais si un journaliste veut révéler une information, quand bien même ce serait un secret des affaires, la loi permet de donner une immunité à ce journaliste ou au lanceur d'alerte pour qu'il puisse révéler ce qu'il considère comme le secret.
Laurent Mauduit, qu'est-ce qui vous inquiète dans ce texte ?
Ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement et les parlementaires, puisque c'est une proposition de loi, vont totalement à rebours de ce qui serait nécessaire. À rebours, pourquoi ? Le droit à l'information, c'est un droit fondamental. Depuis la Révolution française, Camille Desmoulins, le droit de vote ne vaut rien si en même temps il n'y a pas le droit à l'information. Et si l'on parle des entreprises, dans une économie assez singulière des médias, où des milliardaires possèdent la presse, il y a l'une des formes de journalisme qui est le plus menacée, c'est le journalisme d'enquête dans les entreprises. Pour une raison assez simple, c'est que dans cet écosystème où des milliardaires, dont la presse n'est pas le métier, qui ont fait main basse, Carlos Ghosn qui rachète Challenge... du coup, on a une forme de journalisme d'entreprise totalement anémiée. Il y a une tradition d'enquête dans la presse anglo-saxonne. Il n'y a aucune tradition d'enquête dans la presse d'entre... Je le dis, moi, c'était toute ma vie.
Vous avez été journaliste économique.
J'ai dirigé le service éco de Libé, celui du Monde pendant très longtemps, et je fais de l'économie à Mediapart. C'est très dur, non seulement parce que l'entreprise est un lieu monarchique, il n'y a que le patron qui sait, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc, que fallait-il faire ? Il faut aider la presse indépendante, donner des garanties que les enquêtes soient possibles. Or, au lieu de ça, on assiste, et je vais y venir, à une cascade de mesures liberticides, parce qu'il n'y a pas que le secret des affaires. Je vous rappelle qu'il y a aussi un projet de loi sur les fake news. Très inquiétant. Donc, il n'y a que des mesures qui vont à l'encontre. Alors, maintenant, si on rentre dans le contenu, pourquoi est-ce que c'est très inquiétant ? C'est que, en apparence, dans le texte, les journalistes sont mis en dehors des procès.
En apparence.
Certes. Pourquoi je dis en apparence ? C'est que, vous savez bien qu'un journaliste, notamment en matière d'entreprise, s'appuie sur des lanceurs d'alerte. Moi, sans arrêt, je parle avec des citoyens.
En aucun cas, la loi ne remet en cause ça. Le débat que vous donnez, c'est-à-dire de
Raphaël Gauvin.
Le secret des affaires versus la liberté d'informer, c'est un débat qui, c'est pas d'aujourd'hui. On va pas encadrer ça. C'est quelque chose qui existe, mais depuis, comme vous l'avez dit, Camille Desmoulins, depuis des années et des années. Et c'est réglé par uniquement par la jurisprudence. Et là, on vient donner un cadre juridique. Et contrairement à ce que vous dites, on vient donner des garanties, et notamment des garanties de procédure aux journalistes. Notamment, il y a un amendement qu'on a voté, on peut en parler, parce que je pense que c'est très important, c'est pour lutter contre procédures judiciaires multiples. Qui sont, vous en avez souffert dans votre carrière, des procédures qui sont lancées par les entreprises pour intimider les journalistes d'investigation.
Parce que ça arrive encore.
Bien sûr, ça arrive encore. On a voté.
Un exemple. Moi, j'ai été mis en examen par le groupe BPCE 12 fois en une seule année. 12 fois.
Eh bien, on a voté une disposition pour permettre de protéger les journalistes et notamment pour permettre aux juges, dans le cadre de ces procédures multiples, de ces intimidations contre les journalistes, le juge aura la possibilité de prononcer une amende contre l'entreprise qui engage et qui fait ce qu'on appelle des procédures abusives.
Laurent Baudet, vous avez entendu que toute la presse, tous les journalistes, toutes les sociétés de journalistes, tous les syndicats de journalistes vous disent « attention, danger ». Est-ce que vous entendez, vous avez toute la profession qui est contre vous. Laissez-moi juste terminer mon argument. Est-ce que vous comprenez les arguments qu'ils avancent? Pourquoi est-ce que c'est grave? C'est grave, vous l'avez évoqué avec vos collègues dans le débat parlementaire. Parce que la définition du secret des affaires est tellement extensif,
c'est inexact.
Que du coup, mais
c'est
si, totalement. Non, je peux ce que vous lire la loi, mais
ce que vous dites est inexact.
Je donne les arguments principaux. Et deux, l'un des arguments, c'est de dire, mais voilà, il faut sanctionner en cas de ne sont pas sanctionnés quand par un lanceur d'alerte sont révélées des fraudes ou des illégalités. Mais partons. Il y a énormément, moi, dans ma vie, dans l'investigation financière, des faits d'intérêt public que je révèle. Mon métier, c'est pas de donner de qualification pénale à ces faits. Je ne sais pas. Il y a un lanceur d'alerte qui m'informe. Par exemple, j'ai écrit ces derniers mois 10 articles sur des procédures financières de Natixis. Moi, je ne sais pas si c'est une irrégularité. Je ne sais pas si la justice va les qualifier comme
Je ne sais pas.
Et donc, si le lanceur d'alerte ne peut faire son office de lanceur d'alerte que s'il y a une fraude de caractère pénal ou d'irrégularité avérée.
Ce que vous dites est inexact.
Raphaël Gauvin, est-ce que la définition du secret des affaires dans ce projet, dans cette proposition de loi, est-ce qu'elle est trop large?
Elle n'est pas trop large. Elle donne des critères assez précis. Je rappelle juste que on est dans le cadre d'une transposition d'une directive. Et cette définition, elle a été adoptée au Parlement européen à 80%. 80% des représentants au Parlement européen, c'est-à-dire l'ensemble des partis de gouvernement, après un long processus de discussion.
Et après une grande mobilisation des syndicats de journalistes.
Qui a permis de faire évoluer le texte. Et au final, il a été adopté à plus de 80%. Je reviens juste sur ce que vous avez dit, la mobilisation de l'ensemble de la profession. J'ai lu, c'est une tribune qui a eu lieu dans Le Monde, qui a été signée. Moi, je l'ai lu, cette tribune. Cette tribune est inexacte. Ce que vous dites, ce que vous avez écrit dans monsieur. Ah bah alors, on peut reprendre la tribune. Notamment, il est écrit dans la tribune qu'on mettrait en place une infraction pénale pour sanctionner et poursuivre les journalistes sur la base d'une infraction pénale. C'est faux. Le choix qu'on a fait, qui était offert par la directive, c'est justement de ne pas aller, notamment comme on a parlé tout à l'heure de la proposition de loi Urvoas, on n'est pas sur le même...
Je m'en félicite, mais par contre, je m'inquiète que la juridiction qui va délibérer sur ces... ces affaires sur les tribunaux de commerce.
C'est totalement faux.
Ah, dites-moi.
Je vous le dis. Ce qu'on a, on a créé une disposition et on l'a insérée dans le code du commerce. On a inséré la disposition dans le code du commerce. C'est pas parce que la disposition est dans le code du commerce que les tribunaux compétents seront les tribunaux du commerce. C'est totalement faux. C'est inexact.
Alors ce sera quelle juridiction?
Ce sera les tribunaux civils.
Est-ce que vous êtes indigné par le fait que le magazine Challenge, par exemple, soit dès à présent condamné par un tribunal de commerce pour avoir révélé par anticipation ce qui...
Oui, je suis indigné, mais ce n'est pas du secret des affaires. Ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est pas du tout du secret des affaires. On a révélé une information qui concerne une procédure. C'est plus à rejoindre à la protection du secret de l'instruction. Ouais. Et c'est pas du tout... L'information qui a été révélée ne rentre pas dans les critères du secret des affaires.
Le fond de l'affaire, je trouve, c'est qu'au début de la Troisième République, on a eu une législation très progressiste. La Troisième République naissante a l'intelligence de faire une grande loi progressiste qui encadre toujours nos métiers, qui est la loi de 1881. L'information et la librairie sont libres. Et depuis quelques années, et singulièrement depuis l'installation, depuis ce nouveau quinquennat, il y a sans arrêt des dispositions pour encadrer, contenir la presse. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas l'invitation que je viens de vous faire? Pourquoi ne pas aider la presse à faire son office? Pourquoi
vous répondre, monsieur? Non, on a mis en place d'abord ce que vous...
Alors quel garde-fou exactement? Quel garde-fou est mis en place dans cette...
Mais le garde-fou, c'est le juge. Le garde-fou, c'est le juge. Et contrairement à ce que vous dites, c'est pas le juge consulaire, le juge du tribunal de commerce qui aura à se prononcer sur la totalité des affaires. Le juge civil.
Pas sur la totalité.
Bien sûr.
Sur
que
une
non.
partie.
Mais non.
Sur
si,
une partie.
Si,
pourquoi
si
vous dites pas sur la totalité? Pourquoi vous dites pas sur la totalité.
Par une entreprise contre un journaliste, si elle vous attaque, vous, c'est les règles du procédure civil qui s'appliquent.
Pas sur la totalité. Pas sur la totalité.
Et donc, si c'est un juge civil qui sera civil.
Une partie sera traitée par
une
entreprise.
Les règles de procédure civile, monsieur. Et donc, si jamais un journaliste est attaqué, c'est une personne physique. À ce moment-là, c'est le tribunal de grande instance qui se prononcera.
Et si c'est un lanceur d'alerte,
Exactement pareil. C'est un lanceur d'alerte. C'est une personne physique. Et donc, ça sera le tribunal de grande instance qui sera saisi. Avec derrière la cour d'appel. C'est le juge.
Qu'est-ce qui relèvera du tribunal de commerce?
Eh ben c'est, alors excusez-moi de vous faire un cours de droit, mais ça c'est une action qui est engagée par un commerçant contre un autre commerçant.
C'est un petit peu ce qui
sont les règles de règles de procédure civile.
Est-ce que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'exemple de ce journaliste de France 2, Tristan Valex, qui a enquêté sur les activités du groupe Bolloré en Afrique, qui s'est intéressé et qui était poursuivi il y a quelques jours devant le tribunal de commerce de Rennes. Est-ce que finalement vous ne craignez pas, Laurent Mauduit, que ça ouvre une nouvelle option pour les poursuites judiciaires multiples contre les journalistes dont vous parliez?
Écoutez, on n'arrête pas sans arrêt, nous, d'être victimes de procédures de détournement. On va dire encore une fois, le droit de la presse est assez protecteur, il est défini par la loi de 1881, et sans arrêt, il y a des contournements. Donc ça prend des formes multiples. Challenge en a été victime par une condamnation, un jugement du tribunal de commerce. Nous, on a été victime à l'époque quand Sarkozy nous a attaqué sur l'affaire libyenne. Il nous a attaqué non pas sur le motif de diffamation, mais sur faux. Je le dis bien, c'est que sans arrêt, il y a des dispositions pour essayer de contenir, d'encadrer, d'abîmer, d'entailler le droit de la presse.
On vous donne des garanties, monsieur. C'est un très bon exemple ce que vous avez cité. Là, c'est une entreprise commerciale qui attaque France 2 et qui demande 50 millions d'euros. Ça, c'était avant la loi. Ça existait avant. 50 millions d'euros. Grâce à notre dispositif, le juge aura la capacité, si il considère que c'est effectivement, comme vous le dites, une procédure abusive, s'il a la possibilité, de prononcer une amende de 20% du montant des dommages et intérêts qui sont demandés. 50 millions d'euros, le juge aura la possibilité de condamner l'entreprise à 10 millions d'euros, une amende de 10 millions d'euros. Et ça, c'est un dispositif qu'on a mis dans la loi. Et donc, c'est bien, on apporte des garanties. On donne un cadre juridique pour mieux protéger les entreprises, mieux protéger les journalistes et mieux protéger les lanceurs d'alerte. Contrairement à ce que vous dites.
En attendant que cette amende soit prononcée, les journalistes et les rédactions ont-elles les moyens de supporter de telles procédures? Laurent Mauduit, Mediapart a fait de l'argent l'année dernière, pas énormément, 2,2 millions après impôts. Est-ce que ce sont des procédures longues contre des multinationales, en l'occurrence, qui ont de gros moyens? Est-ce que les rédactions ont les moyens?
On ne se rend pas compte à quel point notre vie est en permanence judiciarisée. Tout le temps, en permanence. Moi, je suis journaliste, cofondateur, mais journaliste. Plenel, et le droit de la presse est protecteur, puisque c'est le directeur de la publication qui est poursuivi au premier chef. Et le journaliste qui a écrit n'est poursuivi que comme complice. Mais on passe son temps devant les tribunaux en permanence. Et donc, du coup, c'est pour ça que je disais, vous rendez compte dans quel état d'esprit est ce gouvernement, au lieu de se dire, il y aurait tellement de choses à faire. Laissez-moi terminer,
Laurent Mounier.
Tellement de choses à faire pour garantir le droit à l'information, qui est si grave. On est dans un pays, vous vous rendez compte, la presse et la propriété de milliardaires dont la presse n'est pas le métier. Il y a sans arrêt des systèmes de censure. Il y a sans arrêt un écosystème qui favorise l'auto-censure. Mais c'est ça qu'il faut faire sauter. On a, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, un journalisme économique qui est indigne d'une démocratie. Indigne, parce que comment voulez-vous écrire tranquillement, sereinement, sur votre le premier PDG français, Bernard Arnault, quand il est actionnaire de votre journal? C'est impossible. Soit il censure. Laissez-moi terminer mon propos.
Je suis d'accord avec vous, monsieur.
D'accord. Donc je dis que s'il y avait une urgence à légiférer, je termine juste. J'ai une phrase. Laissez-moi terminer une phrase.
Vous verrez que vos craintes, notamment contre les procédures de Bayon, on apporte une procédure.
Non, vous n'avez pas. Je trouve que s'il y avait eu une urgence à légiférer, ça aurait été là-dessus. Ça aurait été de dire il y a des conflits d'intérêts. Il y a des milliardaires qui ne peuvent pas contrôler la presse. On ne peut pas détenir une agence publicitaire et détenir la télévision. Voilà. Et au lieu de ça, il y a ce dispositif qui inquiète toute la profession. Il y a le dispositif fake news qui fait, par exemple, que l'enquête de Mediapart sur Sarkozy et la Libye aurait été jetée à la poubelle et poursuivie à l'époque contre la sortie entre les deux tours de la présidentielle de 2012. Voilà. Donc c'est une cascade. Au lieu de faire des mesures progressistes, il y a une cascade de mesures très inquiétantes.
Raphaël Gauvrin, la mobilisation des sociétés de journalistes dure depuis des années sur cette question. Il y a eu une première tentative de loi en 2012, un amendement à la loi Macron qui a été abandonné parce qu'il y a eu une mobilisation. Pourquoi, et c'est la réaction de Laurent Mauduit est quand même tout à fait significative, pourquoi les syndicats de journalistes, pourquoi les sociétés de journalistes de différentes rédactions, pourquoi tous ces gens ne sont toujours pas rassurés?
Je suis là pour faire œuvre de pédagogie et pour leur expliquer que bien au contraire, je comprends, je perçois tout à fait les attaques dont ils font l'objet économique, mais aussi judiciaire. Et c'est pour ça qu'on vote cette loi, pour donner un cadre juridique à tout ça et leur apporter des garanties. C'est un débat qui a lieu en France depuis très longtemps. Vous dites 2012, mais même il y avait eu une proposition de loi en 2010. Donc c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. Il faut voir également que l'ensemble des pays européens, notamment nos concurrents économiques, notamment les États-Unis, ont des dispositifs pour protéger les
entreprises. Je vais vous donner un contre-exemple.
Là, je pense que c'est, faut pas que vous m'interrompiez. Ont des dispositifs pour protéger leur entreprise. Ben non, c'est pas faux. Les États-Unis, depuis la fin des années 90, ont mis en place ce dispositif. Et il y a la nécessité pour protéger nos entreprises face à l'espionnage économique, d'avoir ce dispositif qui, en même temps, je le redis, et je fais œuvre, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour faire œuvre de pédagogie, notamment vis-à-vis de la presse et des lanceurs d'alerte, on met en place un dispositif protecteur.
La pédagogie antidémocratique ne fonctionnera pas. Je vais vous donner un exemple démocratique réfléchir, celui de l'Islande, dans le cadre de la révolution démocratique islandaise. Il y a eu une loi, une sorte de transposition du fameux Freedom of Information Act à l'américaine, qui donnait droit aux citoyens d'accéder aux données des entreprises, y compris les entreprises privées, dès lors qu'elles sont sous contrat ou aidées par l'État. Et je pense qu'il y a un combat qui doit être le combat de la presse pour la transparence. Et la France a toujours eu un rôle moteur pour défendre l'opacité. C'est une vieille tradition de l'État français, l'État profond, cachons. Il fut un temps où les entreprises corrompaient les fonctionnaires à l'étranger et c'était financé par les impôts des Français qui ne le savaient pas, puisque les pots de vin corrompent les fonctionnaires étrangers et donnent droit à des réductions d'impôts. Et voilà. Maintenant, c'est... Alors, depuis la directive de l'OCDE de lutte contre les pots de vin, le système était moralisé, mais on revient à un système où empêchons, mettons en cause le droit de savoir des citoyens, qui est un droit fondamental.
La transparence n'est pas exclusive de mettre en place ce système protecteur qui, encore une fois, est protecteur et donne des garanties par rapport à l'état du droit existant.
À votre petite clientèle, pas aux citoyens.
Je vous laisserai libre de vos propos. Par rapport à au droit existant et vous donne des garanties et encadre, encore une fois, alors qu'on était face à un droit actuel uniquement réglé par la jurisprudence.
Merci Raphaël Gauvin, merci à vous Laurent Mauduit d'avoir participé à cette émission passionnée. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Tiffany Menta. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles avec notamment l'appli RFI Pure Radio rubrique magazine. Rejoignez le débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat mercredi, même heure, même endroit. Demain, ce sera mardi politique. D'ici là, bonjour chez vous. La matinée.